RMC, Église d'aujourd'hui,
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui et que tous les samedis soirs vous attend ici sur RMC après l'After, une émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco et qui est aussi disponible sur les réseaux justement du diocèse de Monaco. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une autorité. Bonsoir frère Olivier Thomas Venard.
Bonsoir Matteo.
Je commence comme ça parce que vous avez beaucoup de casquettes et elles sont toutes prestigieuses. Vous êtes membre du couvent dominicain Saint-Étienne de Jérusalem, professeur à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Vous occupez du programme La Bible et ses traditions. Et vous êtes aussi écrivain, vous faites beaucoup de choses. Et surtout, vous vivez en Terre Sainte depuis beaucoup d'années.
Depuis 25 ans.
Donc, vous avez vu changer beaucoup de choses.
Oui, ça fait un quart de siècle et j'ai vu l'évolution de la situation en Terre Sainte et plus particulièrement de la situation en Israël.
On sait tous ce qui s'est passé ces dernières années. Peut-on encore oser parler de paix? Parce que vous venez de publier un livre chez Ephata dont le titre est « Il nous reste la foi ». Qui dit foi, souvent parle aussi de paix. Parce qu'en tant que chrétiens, nous essayons de bâtir des ponts de paix et un monde de paix. Mais est-ce qu'on peut encore oser parler de paix?
C'est une très bonne question. Dès mon arrivée, il y a plus de 25 ans, des vieux pères de la communauté refusaient d'employer le mot parce qu'ils le trouvaient extrêmement galvaudé. La communauté internationale sait la situation d'injustice finalement structurelle qui existe en Terre Sainte et fin de vouloir la paix mais sans véritablement prendre des mesures, essayer de susciter une politique active qui réalise des changements. Donc c'est vrai que le mot de paix, je me rappelle d'anciens directeurs, le père Sigrist en particulier, très prestigieux assyriologue à Yale et chez nous à l'école biblique, évitant le mot en disant déjà prions pour la vérité, déjà qu'on puisse accepter de décrire ensemble les faits, de trouver des mots, au moins pour décrire la réalité.
Parce qu'on a un peu l'impression qu'on arrive toujours à ne pas réaliser, disons, un alignement de planètes, parce qu'il y a, grosso modo, les deux camps qui s'opposent, donc celui palestinien et celui israélien. Et parfois, il y a une certaine sensibilité dans un camp ou dans l'autre, mais pas toujours au même moment.
De ce point de vue-là, la situation en Terre Sainte est assez symbolique de ce qui se passe partout dans le monde, où on a le sentiment que la nuance, le sens du relatif et de l'absolu n'ont plus droit de cité, et qu'il faut absolument être ou noir ou blanc, ou d'un côté ou de l'autre. Évidemment qu'avec de telles positions, rien n'est possible que finalement décrire l'autre comme un ennemi absolu et vouloir l'exterminer. Et donc, pour revenir à la première question qui est celle de la paix, une des premières choses que nous pouvons apporter, et je me rappelle le pèlerinage de Benoît XVI en Terre Sainte, c'était ça qu'il avait, il avait dit, si nous prétendons être religieux, que nous soyons juifs, chrétiens ou musulmans, la première chose qu'on peut faire ensemble de religieux, c'est d'utiliser nos facultés rationnelles pour décrire la réalité, ne pas prendre ce qui n'est que relatif pour de l'absolu, replacer le seul absolu que nous puissions connaître sur cette terre, qui est la dignité infinie de chaque personne humaine, même celle de mon ennemi, même celle de celui qui croit différemment de moi. Et c'est seulement sur cette base-là qu'il faut ensuite trouver des solutions, administratives pour vivre ensemble.
Voilà. À propos de vérité, dans votre livre, vous invitez le lecteur à traverser ou mieux à marcher, comme l'indique le titre de l'un de ces chapitres, dans les ténèbres. De quelle obscurité vous parlez?
Alors, mes 10 premières années en Terre Sainte, j'ai beaucoup écrit parce que je découvrais tout et c'était une manière de découvrir que d'écrire. Et vers 2011, à la fin de la deuxième intifada, justement, je suis arrivé à ce constat que au fond, tout le monde est au courant. Les journalistes, à l'époque en tout cas, pouvaient faire leur travail. Et aujourd'hui encore, beaucoup le font au péril de leur vie, jusque dans Gaza d'ailleurs, et des journalistes israéliens et palestiniens. Les diplomates sont au courant de tout et pourtant, on n'arrive pas à une solution politique. Ce qui était impensable vers la fin de cette deuxième intifada, à savoir qu'un peuple envisage d'exterminer, en tout cas de chasser purement et simplement l'autre de cette terre. La fameuse thèse du transfert qui, pour mes amis israéliens, représentait une opinion absolument extrémiste et hors du champ de ce qu'ils considéraient comme leur démocratie, est aujourd'hui majoritaire dans la population.
Mais il y a eu aussi le 7 octobre,
voilà.
Je vous cite, car il y a eu l'abomination du 7 octobre, plus de 1200 personnes massacrées, mutilées, violées, même des bébés, 255 raptées à Gaza, y compris des nourrissons. Quand il se passe quelque chose comme ça, on peut effectivement être amené à détester l'ennemi, surtout s'il s'agit des terroristes, comme ceux de Hamas.
Je pense qu'il faut en effet rappeler cela, l'horreur absolue du 7 octobre. C'est à cause d'elle que j'ai été conduit à reprendre la plume sur la situation. Voilà, une éditrice chez Grasset m'a commandé en fait ce livre. Elle m'a dit « on aimerait faire entendre votre voix » après m'avoir entendu sur France Culture, invité par Guillaume Herner. C'est absolument... Ce qu'on a vu était un pas dans l'horreur, puisque pour la première fois quand même, des gens qui étaient en train de commettre des horreurs s'en vantaient en direct sur les réseaux. Et tout ça en prononçant le nom de Dieu. Alors, je m'empresse de dire que cette horreur, à l'échelle de la France, c'est comme si on avait eu 10 000 victimes au Bataclan.
Oui.
Donc, on peut comprendre le choc.
Ou bien que le lundi de Pâques, chez soi, on voit rentrer des terroristes et 10 000 personnes.
On peut comprendre le choc, l'effroi existentiel de toute la société israélienne. Depuis, hélas, ce qui était au départ une guerre pour essayer de rétablir la sécurité a pris toutes les apparences d'une guerre de vengeance, d'une violence extrême. Donc la marche dans les ténèbres, c'est cela. C'est les ténèbres d'un côté, de l'autre, des horreurs qui sont commises. L'armée israélienne a elle-même reconnu officieusement au moins 70 000 victimes, dont les deux tiers, si mon souvenir est bon, sont des femmes et des enfants. Donc marche dans les ténèbres, et c'est cela. Et puis c'est aussi nos propres ténèbres. J'essaie de méditer là-dessus au milieu du livre. Deux de mes amies, en tout cas de femmes religieuses et intellectuelles que j'admire beaucoup à Jérusalem, à ce moment-là, au lendemain du 7 octobre, ont lancé des appels assez déchirants en direction des chrétiens et en particulier des catholiques. Où êtes-vous? On veut sentir votre solidarité, etc.
De quoi la partie? Elles sont de quelle religion? C'est juste pour comprendre.
L'une est rabbin, une grande rabba de Jérusalem, et l'autre est universitaire, spécialisée dans justement l'étude des relations.
Et elles se sont adressées à vous, à nous, entre guillemets.
Oui, elles ont fait des vidéos, ou même l'une a fait une lettre ouverte avec des amis rabbins au pape en demandant une solidarité, et je me reproche a posteriori pourquoi est-ce que sur le champ tu n'as pas pris ta plume pour mettre un message de compassion. Et pourquoi? C'est parce que j'ai le sentiment d'avoir été, comme beaucoup, on s'est contenté de dialogues un peu tape dans le dos, comme disait le rabbin Léo Klenicki, qui était un grand rabbin d'Argentine que j'ai eu la chance de connaître. Il disait il faudrait qu'on sorte du dialogue des tapes dans le dos pour un dialogue en vérité,
un dialogue
de frères en vérité, et aborder les questions qui fâchent. Il était évident qu'on n'allait pas mettre en cage pendant des années et des années, sans que quelque chose n'explose, 2,5 millions de personnes entre les quatre murs de la bande de Gaza. Et donc la situation de l'être humain là-bas, la question de la terre elle-même, faut-il absolument la sacraliser dans des frontières extrêmement précises? Celle des Écritures, toutes ces questions-là, voilà, ça répond aussi à votre première question, à quelles conditions la paix? Il faut que nous acceptions d'envisager de ne pas être d'accord sur ces questions et de voir comment trouver des compromis.
Mais vous avez dit qu'on a l'impression qu'il faut être tout est noir ou tout est blanc. Et je pensais un petit peu à la présence justement des chrétiens en Terre Sainte. qui sont une nuance de gris peut-être entre les deux, et ils sont mis à mal.
Exactement. Mais là, vous parlez des chrétiens traditionnels, les chrétiens des grandes églises apostoliques. En effet, théologiquement, ne serait-ce que parce que nous lisons la Bible selon la tradition, donc nous avons bien des raisons, et nous savons que Jésus, tout le Nouveau Testament, s'enracine dans la vie juive de l'époque où le Temple existait encore. Pendant 10 ans, j'ai enseigné avec des amis juifs à l'université hébraïque le Nouveau Testament comme littérature juive de l'époque du Second Temple. Ce qui ne veut pas dire du tout que Jésus et ses disciples étaient des rabbins. Le judaïsme rabbinique que nous connaissons aujourd'hui est une forme de recréation du judaïsme postérieur au christianisme. Mais ça veut dire que nous sommes cousins, que nous avons plein de repères pour nous entendre.
Commune.
Et par ailleurs, ces chrétiens traditionnels en Terre Sainte, ceux des églises apostoliques, sont dans une très très grande majorité des Arabes. Et habitués depuis des siècles en Palestine, sous l'Empire ottoman, à vivre en bonne entente, en bonne convivance. Récemment, on fêtait la Saint-Georges, qui est à la fois une espèce de saint du Coran et un très très grand protecteur des chrétiens dans tout le Proche-Orient. Donc oui, c'est vrai que les chrétiens sont une minorité qui pourrait faire le lien, mais aujourd'hui, les conditions de l'occupation israélienne des territoires, marquées par le suprémacisme, au terme duquel et l'armée et les hooligans parmi les colons israéliens,
comme ceux qui ont attaqué les symboles du christianisme ou soit une sœur.
Et voilà, ceux qui ont attaqué une de nos collaboratrices,
vous la connaissez très bien,
que je connais très bien, qui a été victime d'une très grande violence, semble-t-il, homicide. Des collaborateurs à nous ne pouvaient plus passer dans la vieille ville de Jérusalem sans être protégés. D'ailleurs, il faut leur rendre hommage. Par des amis israéliens, membres d'organisations humanitaires, qui, pour la liberté religieuse, suivaient les chrétiens en vieille ville pour prendre des photos, tout simplement, des crachats ou des violences dont ils étaient victimes, pour qu'on puisse porter plainte, etc., etc. Ces choses-là, il y a 25 ans, on ne les imaginait même pas.
Et vous êtes un dominicain, je dis que vous étudiez les Écritures saintes, c'est un peu votre job, vous mangez de la Bible du matin au soir.
Spécialement à Jérusalem, c'est notre mission principale comme communauté, nous sommes là pour étudier la Bible au pays de la Bible.
Et est-ce que vous pensez que parmi les trois grandes religions, même si, je veux dire, pour les musulmans, la Bible n'est pas un livre des références, mais qu'on trouve dans les Écritures, dans ces Écritures à soi, une façon pour cautionner une guerre ou en tout cas une inimitié.
Alors, il faut savoir, et ça, ma réponse va être très profondément catholique, mais je crois aussi que les deux autres monothéismes pourraient, mutatis mutandis, dire la même chose. Les Écritures sans tradition, on peut leur faire dire absolument tout et n'importe quoi. Moi, vous savez, avec un peu de bonne rhétorique, donnez-moi l'annuaire téléphonique, je vais vous en faire une lecture. Je vais vous en faire une lecture passionnante.
Oui.
Je veux dire, des Écritures, y compris des Écritures saintes, ce ne sont que des mots sur du papier. Et j'insiste beaucoup, là, comme bibliste, la Bible, en tant que texte écrit, n'est pas la parole de Dieu. C'est la trace écrite de la parole de Dieu. Mais nous la recevons à condition de faire usage de notre cœur, de notre intelligence, de toute notre vie pour vivre avec elle. Donc évidemment, je peux trouver dans la Bible, comme dans n'importe quel écrit, séparer des phrases de leur contexte, etc. Oublier que ce que je suis en train de citer, comme si c'était de l'histoire, est en fait une espèce d'épopée fantasmatique qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, et les archéologues peuvent le montrer. La Bible, c'est quelque chose de profond, de magnifique. C'est une littérature extraordinaire avec des passages qui sont en effet très historiques au sens moderne du terme. Mais il y a aussi beaucoup de romans, beaucoup de poésie. C'est à travers tout ça que l'Esprit nous parle. Donc isoler, comme on l'a entendu dans la bouche de tel ou tel ministre, voire premier ministre, des passages de l'Écriture pour justifier le fait d'aller larguer des bombes dirigées par l'intelligence artificielle sur des populations largement civiles, il y a quelque chose de véritablement indigne de Dieu, de l'homme et de la raison. Et la même chose vaut évidemment pour l'utilisation de versets coraniques. Alors moi, je ne connais pas suffisamment le Coran, mais j'imagine qu'il y a aussi dans la tradition, la véritable tradition ou les véritables traditions musulmanes, des façons de les interpréter qui ne sont pas poussées au crime.
Ouais. Une dernière question, parce que le temps à notre disposition est bientôt terminé. Peut-on encore être constructeur de paix selon l'invitation que Jésus a fait dans les discours de la montagne, sans passer par contre pour ceux qui justifient tout? Parce que finalement, il faut s'embrasser, il faut tous...
Oui, je crois vraiment, encore une fois, je crois beaucoup, et il faut le défendre, et notre Saint-Père nous y invite avec une espèce d'intelligence très douce, très calme et très lucide. Il nous faut cultiver le sens de la vérité. Il nous faut croire que l'intelligence humaine est capable de décrire des faits. Alors évidemment, on ne se fait pas que des amis. Au moment de la sortie de mon livre, j'ai eu droit à quelques entretiens sur des grands médias, comme ce soir, ensemble, et j'ai été frappé par le ton extrêmement excessif des deux côtés. Et je ne crois pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais je pense que nous avons un effort à faire pour trouver des deux côtés, quand il y a deux côtés, en fait, de tous côtés, essayer de trouver la face lumineuse des gens à qui l'on s'adresse, y compris celle des gens à qui on a des reproches à faire. Parce que, encore une fois, il en va de la dignité de l'être humain. Et si on s'efforce de respecter cette dignité autant que possible, en soi-même et en autrui, on peut, je crois, continuer à essayer de dire la vérité, en appeler à la raison. Mais c'est sûr qu'on trouvera toujours en face de nous des gens pour nous expliquer qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de les détruire tous. Et ceci est effroyable. Et donc, en tout cas, on peut faire au moins une chose, c'est ce que nous faisons au cœur de Jérusalem, c'est cultiver dans la paix, et d'une façon tout à fait multiconfessionnelle, justement ce goût de la vérité autour des Écritures saintes. Nous avons la plus grosse bibliothèque consacrée à la Bible et à l'archéologie à Jérusalem, et une des meilleures au monde. Nous sommes une plaque tournante où finalement des savants de toutes les confessions peuvent venir étudier quelquefois même un demi-verset de la Bible, ou un livre entier, ou comment relire Josué aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas lire Josué comme un récit de conquête historique, alors que l'archéologie dément une grande partie de ce qu'on voudrait faire dire à ce livre.
Merci beaucoup, frère Olivier Thomas Venard. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Il nous reste la foi » paru chez Efata. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir aussi et qui peuvent retrouver cet épisode sur l'application et le site de RMC et aussi sur les réseaux sociaux du diocèse de Monaco. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Ciao.
C'était Église d'aujourd'hui. Une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.